Chers professeurs, chers collègues, chers auditeurs et téléspectateurs, mesdames et messieurs. Lors d'une visite d'État à Athènes en novembre 2019, Xi Jinping a soutenu de tout cœur ses hôtes grecs pour que les Britanniques leur restituent la frise du Parthénon. En 1801, Lord Elgin, père du pilleur du palais d'été impérial, s'est approprié l'œuvre en marbre de l'Acropole, aujourd'hui conservée au British Museum. Attiser cette querelle vaut à Xi la sympathie de la Grèce, tête de pont de la route de la soie. Cela permet également à la Chine de se poser en vengeur des crimes coloniaux occidentaux, un discours grâce auquel elle se fait un nom en Afrique, en Asie et en Amérique du Sud. Dans le quotidien I Catimerini, Xi a souligné les similitudes entre les deux pays en tant que civilisation ancienne, sous la devise, je cite, « Vous avez Socrate, nous avons Confucius ». À une Europe qui a du mal à définir son rôle dans le monde, les autres acteurs tendent un miroir. Ce sont eux qui nous proposent un récit en nous invitant à y entrer. À Washington, nous l'avons vu la semaine dernière, on développe avec autant d'ardeur sous Joe Biden que sous Donald Trump la narration d'une nouvelle guerre froide. Dans ce récit, la lutte de pouvoir qui oppose les démocraties occidentales à la Chine est montée en épingle pour en faire une bataille entre le bien et le mal. En comparaison, l'approche de l'Europe par Pékin offre un contraste flagrant. Si Xi Jinping parle toujours de la relation avec les États-Unis comme d'une relation entre grandes puissances, il souligne à notre propos le lien entre grandes civilisations. Selon lui, la Chine est la plus ancienne civilisation à avoir traversé les siècles. Elle incarne l'Orient. Tandis que l'Europe, avec une place spéciale pour la Grèce, est le berceau de la civilisation occidentale. Toujours selon Xi, cette responsabilité historique doit inciter les deux aires culturelles à œuvrer à un monde dans lequel tous les États, quel que soit leur système politico-économique, seraient égaux. Troisième grande puissance, la Russie, troisième image que l'on renvoie à l'Europe. En juin 2013, à Ekaterinbourg, le président Poutine dîne avec les présidents de l'Union, Van Rompuy et Barroso. Un moment de bascule. À partir de l'automne, les relations ne tarderont pas à se détériorer à propos de l'Ukraine, pays voisin des deux parties. En attendant, pendant ce dernier été d'innocence, dans cette ville eurasienne juste à l'est de l'Oural, un Vladimir Poutine tourné vers l'ouest fait valoir un héritage chrétien commun. En effet, Moscou se considère de nouveau comme la troisième Rome, descendante des empereurs et des papes. Qu'il s'agisse de la démocratie, de la civilisation ou de l'héritage religieux, les acteurs et les observateurs extérieurs à notre continent considèrent que l'ensemble européen a une identité historique et culturelle propre, terreau propice à un récit. Ce qui fait toutefois encore défaut, c'est la volonté ou la capacité de nos pays de lui conférer une forme politique. Cette tâche, tel est le thème de cette dernière conférence du cycle consacré à l'Europe géopolitique. Ces dernières semaines, nous avons fait émerger bien des points. Il apparaît clairement que les aspirations géopolitiques exigent en premier lieu un changement d'éthos et de vision du monde. Il ne suffit pas d'ajouter une pince ou une clé dans la boîte à outils bruxelloise déjà bien pleine. Au contraire, il revient à l'Europe politique de se libérer de son rôle de figurant qui porte soit des vérités universelles, soit des accords politiques fondés sur la règle. Un acteur sur scène accepte d'être partie prenante au flux des événements et de s'engager dans la lutte pour le territoire, la technologie, l'influence, le prestige. Il lui faut adopter le langage des autres, le langage du pouvoir, tout en sachant improviser. Voilà pourquoi j'ai délibérément placé la notion de géopolitique au centre de ma réflexion. Si la souveraineté de Macron est un terme marquant, son emploi est peu pratique dans des traditions juridiques et constitutionnelles autres que la France. La notion d'autonomie stratégique gagne elle aussi du terrain dans le débat, notamment en réaction à la pandémie. Ces deux vocables, souveraineté et autonomie stratégique, expriment une part de ce qui est en jeu. Cependant, ils sont introspectifs, regardent vers un soi censé devenir plus souverain, plus stratégique, plus autonome ou moins naïf. Sans qu'on s'en aperçoive, le discours porte bien vite sur les institutions, la façon de voter, les politiques, zone de confort de la doctrine bruxelloise. À l'inverse, le terme géopolitique nous pousse davantage à regarder autour de nous, à examiner où nous trouvons, entre quelles puissances dans l'espace et entre quel passé et quel avenir dans le temps. Ce prisme nous force donc à porter un regard et à nourrir un débat stratégique. Répétons-le, l'Union européenne vient de loin. Par conséquent, les percées et les idées géopolitiques se heurtent toujours à des forces contraires. J'emprunte un exemple à mon confrère Hans Kribbe. Nous sommes en 2015 et l'UE décide d'imposer l'étiquetage des marchandises provenant des colonies israéliennes, indiquant qu'elles ont été fabriquées dans un territoire illégalement occupé. Un acte politique, bien qu'on avance, qu'il repose sur une réglementation adoptée une vingtaine d'années plus tôt pour lutter contre la maladie de la vache folle. Même s'il garde ce dire, on comprend que l'Europe use de la puissance de son marché pour faire pression sur Jérusalem. Or, à Bruxelles, on n'est pas même en mesure de déterminer s'il s'agit d'un coup stratégique souhaitable ou raisonnable, car le langage adéquat fait défaut. L'application d'une règle, en rien un acte politique. Malgré cette inaptitude tenace, on a assisté ces dernières années à un réveil géopolitique de l'Europe, certes à son corps défendant. De rudes rencontres avec d'autres acteurs l'y ont contrainte, à commencer par les escarmouches à la frontière avec nos deux grands voisins, la Russie et la Turquie, sans oublier notre positionnement délicat dans la lutte titanesque qui s'annonce entre la Chine et l'Amérique. Ces événements et évolutions ont renforcé notre sentiment de finitude, tant spatialement que temporellement. Sentiment de vulnérabilité qui est le point de départ de toute géopolitique. Un effort douloureux, mais libérateur. Alors que pendant trois quarts de siècle, l'Europe, par un déni du politique, s'est mise à l'abri de l'histoire dont on pensait avoir touché la fin, on interprète dorénavant cette période comme un intervalle, un paisible interlude. Il nous revient donc de réfléchir à la tâche stratégique pour les 75 prochaines années. Est-ce qu'ils sont quelques grandes lignes de cette mission stratégique? Comme les semaines précédentes, nous passerons vite sur les politiques de l'Union et sur les actions immédiates à entreprendre. Il sera plutôt question, pour reprendre un trident anglais, non de policies, les politiques publiques, mais de politics, le jeu politique, et de polity, l'ordre politique. Avec un peu de bonne volonté, on pourrait voir là une critique de la raison géopolitique. Élaborer cette mission se conçoit aisément sur la base des trois immenses atouts de la diplomatie chinoise déjà évoqués, le centralisme, le lien stratégique et un récit ancré dans le temps long. En laissant enchevêtrant Pékin, comme à d'autres égards Washington, se donne une confiance en soi naturelle, une grande capacité à fixer des priorités stratégiques et à les mettre sans tarder en pratique. Quant au centralisme, le sujet est vite traité. on ne peut l'envisager en Europe de la même façon qu'en Chine ou en Russie. Dans nos démocraties libérales, le changement stratégique ne peut résulter d'une décision prise du haut vers le bas. Il se manifeste sous la forme d'un lent glissement induit par de nombreux choix publics. En outre, l'identité historique et constitutionnelle du vieux continent est marquée par la pluralité, par une diversité unique de cultures et de peuples sur un petit territoire. Voilà pourquoi notre Union n'est pas un État, et pas non plus en passe d'en devenir un. Elle se développe comme une union d'États. De ce fait, l'un des trois atouts majeurs du développement géopolitique de la Chine, la dynamique centralisatrice, se trouve donc hors de portée de l'Europe. Point n'a besoin de s'en attrister. La pluralité démocratique et culturelle est la condition de notre liberté, et c'est là une énorme force. Le processus décisionnel de l'UE ne peut donc échapper à la quadrature du cercle. Comment décider à plusieurs? Comment mener sa barque, y compris au milieu d'une tempête, en étant plusieurs à la barre? À compter des années 70, c'est la nécessité d'accroître le pouvoir de décision qui a été à l'origine des principales modifications institutionnelles. Le tout dans le cadre d'une lente métamorphose d'une communauté politique de la règle en un ensemble européen capable, à partir de 89, de mener de surcroît une politique de l'événement. On peut penser, en l'espèce, à l'émergence du Conseil européen comme arbitre suprême et décideur en temps de crise, à la mise en place des présidences stables pour le Conseil affaires étrangères, l'Eurogroupe ou le Conseil européen, à des cabinets de crise en coulisses, ou encore à la création du service diplomatique, voire à toutes sortes de formes et de variantes pour faciliter la prise de décision en matière de politique étrangère afin de contourner le veto. Dans certains domaines, par exemple le commerce, l'Union dispose d'un porte-parole central fort, convaincant vis-à-vis de l'extérieur dès lors qu'il est explicitement mandaté par tous les acteurs. Toutefois, ce rôle n'est pas approprié pour tous les domaines. Deuxième grand atout, la conscience stratégique. Depuis quelques années, et notamment en raison du défi chinois, on reconnaît la nécessité d'intégrer les intérêts politiques, économiques et sécuritaires dans une seule et même vision. Pour la première fois, on recourt à des critères géopolitiques en plus de simples considérations liées aux intérêts commerciaux et financiers. Par exemple, dans l'évaluation des investissements étrangers, on en a parlé. Bien sûr, des obstacles redoutables se présentent ici aussi, dont deux sautent aux yeux. Tout d'abord, l'Union se caractérise par une culture de politique morcelée. En témoigne sa réponse à l'ambitieuse initiative Belt and Road du président Xi, la nouvelle route de la soie. Depuis 2018, l'UE dispose d'une stratégie de connectivité axée sur l'Asie, qui s'apparente clairement à une riposte aux ambitions chinoises, même si le document s'abstient d'y faire référence. Or, cette politique se cantonne toujours à la sphère des programmes et de la fixation de normes, sans véritable connexion avec les autres domaines d'action. Une vision globale qui relierait projets ferroviaires et portuaires à la réflexion sur la migration, le climat, l'innovation, ou à une analyse des rapports de force fait défaut. Il y a un deuxième obstacle majeur. Les États membres n'ont pas tous la même définition de leurs intérêts stratégiques. Quand la France s'engage militairement pour la sécurité de l'Europe contre la menace islamiste au Sahel, et même avec l'appui de soldats hollandais, danois, estoniens, des voix dans l'opinion publique allemande qualifient cette action de néocolonialiste, d'expression d'une grandeur bien passée. Les exemples sont légion, inutiles de développer. À certains moments, là réside la nouveauté, l'Union a montré cette capacité stratégique globale, ainsi lors de la crise migratoire à notre frontière sud, abordée lors de la première conférence. Mais là, il s'agissait d'une situation de crise aiguë. La survie de l'Union était en jeu. Mieux vaut qu'une telle discussion stratégique sur les intérêts et objectifs partagés ait lieu avant que Dame Fortune ne vienne mettre en évidence les vulnérabilités de notre continent. On comprend dès lors pourquoi, en termes de vision stratégique intégrale et de pouvoir décisionnel centralisé, il convient d'effectuer ces prochaines années un important travail conceptuel, institutionnel et pratique. Par exemple, faire l'inventaire de toutes les relations de politique étrangère, tâche entamée par la Commission. Du point de vue géopolitique, tout peut potentiellement acquérir une importance stratégique, y compris un simple programme d'échange touristique. Il s'agit également d'instaurer des forums décisionnels qui mettent de la cohérence entre ce qui se passe à Bruxelles et dans les capitales, et d'articuler plus clairement les moyens disponibles pour jouer simultanément les rôles de partenaires, de concurrents et de rivaux systémiques vis-à-vis de la Chine et de la Russie, de mieux définir les lignes rouges que nous tenons à défendre, ou encore l'espace où il nous est possible de négocier et d'aboutir à des compromis. Au fond, il s'agit toujours de se donner la capacité de porter un jugement politique faisant autorité. J'insiste sur cette expression. L'Europe est confrontée à des choix tragiques. La sécurité et la prospérité ne vont plus de soi. La finitude spatiale et temporelle signifie que tout ne peut pas toujours être accompli en même temps. Ou, pour reprendre les termes grecs de la conférence précédente, le passage du Kairos au Topos dans l'espace et du Chronos au Kairos dans le temps réclame ce qu'Aristote appelle la phronesis, la sagesse et la capacité de jugement. Cette catégorie de pensée et d'action se distingue de la techné, l'action efficace du savoir-faire, vocable que l'on retrouve dans technologie et technocratie. Alors que l'appareil décisionnel bruxellois a été conçu pour organiser un consensus technique et réglementaire, il lui faut désormais assumer les dilemmes de notre temps, passer du savoir-faire au phronesis. Pour le public, les choix politiques tragiques du présent ne sont acceptables que s'ils s'inscrivent dans un récit crédible du pourquoi. Un récit qui situe les luttes et les choix actuels dans un cadre temporel plus large, dans des valeurs sous-jacentes. Une telle confiance politique en soi est indispensable pour que l'opinion européenne accepte d'envoyer ses porte-paroles aux quatre coins du monde afin qu'ils revendiquent au nom de l'Europe un rôle pertinent. Ceci nous amène, bien sûr, au troisième atout stratégique majeur, sujet principal de cette conférence qui porte sur l'entrée de l'Europe dans l'histoire, le récit. Pour commencer, comparons une fois de plus l'initiative Belt and Road avec la réponse de Bruxelles. En pratique, Xi Jinping initie modestement sa démarche géopolitique. En 2013, il la lance à travers deux ou trois projets lors d'une visite officielle au Kazakhstan et en Indonésie. Mais sur le plan narratif, le président chinois se montre tout de suite fort ambitieux. Il parle d'emblée de plus de 2000 ans de contacts commerciaux et culturels entre l'Asie et l'Europe et souligne son intention de faire revivre les anciennes routes de la soie. Grâce à cette prise de parole, le projet de Xi gagne en reconnaissance, en éloquence et en pouvoir d'attraction. On peut fêter aussi chaque petit succès comme partie d'un vaste ensemble. Ainsi, la route de la soie renforce l'image de la Chine en tant que centre économique mondial et puissance qui fait un retour tonitruant. La stratégie de connectivité UE-Asie de 2018 procède d'un schéma contraire. Elle prescrit des normes, propose des financements de projets, mais tout ceci sans le moindre récit sous-jacent, outre un appel peu inspiré à la croissance mondiale et économique. Rien de surprenant à ce qu'elle ne fasse pas la une et que personne n'en soit informé, à l'exception de quelques experts. Est-ce préjudiciable ? Oui. Une stratégie qui ne s'appuie pas sur un récit n'en est pas une. Une stratégie n'est pas une cerise sur le gâteau, c'est le gâteau, ou au moins la moitié du gâteau. Récit et pouvoir sont inextricablement liés l'un avec l'autre. Personne n'a mieux exprimé cette intuition que Michel Foucault, ici même, lors de sa leçon inaugurale au Collège de France en décembre 1970. Depuis longtemps, l'une des phrases de son ordre du discours est gravée dans mon esprit. Je cite « Le discours n'est pas simplement ce qui traduit les luttes ou les systèmes de domination, mais ce pourquoi, ce par quoi on lutte, le pouvoir dont on cherche à s'emparer. » La nouveauté pour l'Europe, c'est que l'Union a reconnu que nous sommes en fait en plein dans une guerre mondiale de récits. Cette percée a eu lieu par l'intermédiaire du haut représentant Josep Borrell le 24 mars 2020. En rien un hasard, puisqu'on était au début de la pandémie. L'Europe se trouvait à bout de souffle, la Chine lançait sa diplomatie du masque. Les propos de Borrell vont au-delà de la simple déploration ou réfutation des inexactitudes factuelles de la propagande des rivaux. Les récits, après tout, ne tournent pas seulement autour de la vérité ou du mensonge. Ils recèlent une propre puissance créatrice et performative. Ils peuvent devenir vrais. L'Europe ayant reconnu l'entrelacement du récit et de la puissance, par où peut-elle ou doit-elle commencer ? L'attrait de l'universalisme est fort, tout comme est forte la tentation de se fondre dans un Occident qui englobe les États-Unis et le Canada. Mais voilà, les rapports mondiaux ont tout simplement changé. En conséquence, une image claire et forte de soi nécessite de la part du vieux continent une double émancipation narrative. D'une part, le pôle de puissance qu'est la Chine de Xi a provincialisé l'universalisme. À l'été 2020, renforcés dans leur conviction par l'implosion pandémique états-unienne, des intellectuels chinois loyaux à leur gouvernement ont dit au New York Times, je cite, « Quand j'étais faible, je devais suivre toutes vos règles. À présent que je suis fort, j'ai confiance en moi. Pourquoi ne pourrais-je pas, dès lors, établir mes propres règles, valeurs et idées ?» Fin de citation. Les valeurs universelles, qu'est-ce que cela veut dire politiquement quand le plus grand pays du monde n'y souscrit pas et n'a aucune intention de le faire ? D'autre part, l'égoïsme de l'Amérique de Trump a rompu le charme narratif de l'Occident. Après les années 2016-2020, avons-nous conclu la semaine passée, les Européens auront du mal à croire encore à la promesse de la Pax Americana, même s'il ne faut pas sous-estimer la force de conviction de la fabrique de récits washingtonienne, hollywoodienne. Récemment, on a assisté à deux tentatives fascinantes de formuler un autre type de récit pour l'Europe. Toutes deux au plus haut niveau politique, l'une à Bruxelles, l'autre à Paris, toutes deux nées du sentiment de vulnérabilité géopolitique. Tout d'abord, lors de sa prise de fonction en septembre 2019, la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a chargé l'un de ses vice-présidents, le grec Margaritas Skinas, de protéger notre mode de vie européen. Une lettre de mission qui a donné lieu à une controverse pour le moins révélatrice. Face aux critiques dans l'opinion publique et au Parlement, on a modifié l'intitulé « protéger » par « promouvoir ». Il s'agissait d'éviter de donner l'impression que les migrations, domaine politique que le commissaire concerné allait coordonner, sont une menace contre laquelle il faudrait protéger notre mode de vie, notre « way of life ». Ces reproches amènent Mme von der Leyen à exposer dans la presse européenne le concept en question, partant d'un événement remontant à 1989. Je cite. Voici 30 ans, le mois dernier, 2 millions de personnes à travers les États baltes se donnaient la main pour former une chaîne de la liberté de plus de 600 km de long. Ces gens ont montré la force unificatrice de nos valeurs communes, la liberté, l'égalité, la démocratie et le respect de la dignité humaine. Madame von der Leyen, qui entend diriger une commission géopolitique, ne craint pas de revendiquer une identité et un récit en propre pour l'Europe. Il reste cependant difficile, dans la mise en œuvre, d'échapper à l'attrait de l'universalisme. Tiré de l'article 2 du traité sur l'Union, les valeurs qu'elle mentionne, liberté, démocratie, égalité, etc., ne s'éloignent guère des formulations de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Pour la pensée européenne, essentiellement post-catholique, il est encore difficile de dire adieu à l'universel. Sous ce jour, il est amusant de voir comment le commissaire en question vient d'intervenir dans la bataille gréco-britannique pourtant sur la frise du Parthénon. Une bataille attisée par le Premier ministre grec conservateur Mitsotakis et à laquelle, on l'a vu, Xi Jinping a mêlé sa voix. Le mois dernier, dans le journal grec Tanea, le Premier ministre Boris Johnson, il s'est fait photographier à Downing Street à côté d'une tête en plâtre de son héros Périclès, Johnson a réaffirmé fermement la position britannique « Les marbres restent au British Museum ». Le lendemain, le commissaire Skinas a déclaré sur Twitter « Leur place est au Parthénon ». En ces temps difficiles, le patrimoine culturel universel devrait élever l'humanité et non la diviser. S'agit-il des propos d'un vice-président bruxellois d'humeur à en découdre au sujet de l'après-Brexit ? D'un homme politique grec qui suit la ligne du parti ? D'un commentant neutre de la justice patrimoniale ? Qui nous le dira ? Une véritable commission géopolitique aurait peut-être balancé sans ménagement cette querelle britannico-grecque sur la table des négociations du Brexit ? Ou faudrait-il croire que les piliers de la conscience de soi culturelle sont moins importants que les droits de pêche ? La deuxième tentative récente aussi d'asseoir la conscience de soi européenne sur le terrain du particulier s'est produite presque simultanément à la première. C'était à Paris, dans un discours aux ambassadeurs français prononcé par le président Emmanuel Macron. Prenant acte de la fin de l'hégémonie occidentale sur le monde, Macron observe de nouvelles puissances qui se pensent comme de véritables États-civilisations. Il est frappé de voir aujourd'hui la Chine, l'Inde et la Russie animées d'une inspiration politique beaucoup plus forte que les Européens, un imaginaire que nous avons perdu. Avec plus de clarté et de franchise que tout autre dirigeant, Macron affirme que si nous n'agissons pas, je le cite encore, l'Europe disparaîtra. L'Europe disparaîtra avec l'effacement de ce moment occidental, lorsqu'elle devra choisir de rejoindre l'un des deux grands pôles de puissance, les États-Unis ou la Chine. Ce serait une perte, car l'humanisme européen disparaîtra. Valeur profonde sans égale, un humanisme qui se distingue aux yeux du président français, tant de la valeur fondamentale américaine de liberté que des choix collectivistes de la civilisation chinoise. À la différence de la patronne de la Commission, il ne recule pas devant des mots comme « civilisation » et « histoire » en vue d'énoncer une puissance particulière pour l'Europe. Il envie la capacité de Vladimir Poutine ou celle de Viktor Orban à mobiliser leur histoire nationale pour asseoir leur stratégie, leur vitalité culturelle et civilisationnelle, qu'ils considèrent comme erronée, mais inspirante, et désirent que l'Europe renoue avec la Renaissance et les Lumières, y compris avec l'apport de l'humanisme français et avec l'universalisme du XVIIIe siècle. Il s'agit ici de notions tâtonnantes, pas vraiment approfondies depuis lors, sujettes à critique par ailleurs. Il n'empêche que Macron est, à mon sens, sur la piste quelque chose d'essentiel. Au lieu d'abandonner le terme « souveraineté » à ses adversaires nationalistes, il le revendique pour l'Union européenne. De même, il entend revendiquer la culture et l'histoire pour l'Europe, domaine trop longtemps escamoté par peur de marcher sur les mines qui demeurent enfouies dans le sol de notre imaginaire collectif. Il n'a pas tort. Se couper de l'histoire, c'est s'interdire d'imaginer un quelconque avenir. Ici, nous touchons à une deuxième question de narration, tout aussi fondamentale. Car qui est en réalité le protagoniste du récit européen? Nos partenaires et adversaires savent très bien qui est leur héros. Le président chinois raconte l'histoire d'une vieille civilisation à laquelle, grâce au Parti communiste chinois, justice est de nouveau rendue après un siècle d'humiliation. La rupture révolutionnaire rouge de 1989 est surmontée. Une preuve éloquente, la revalorisation officielle du confucianisme classique, strictement interdit sous Mao, et qui permet au narrateur en chef de mobiliser les anciennes forces de cohésion sociale et culturelle. Le président russe en appelle lui aussi à un passé plus lointain que ne pouvaient faire les dirigeants communistes du Kremlin. Il accorde un rôle majeur à l'Église orthodoxe et à l'Empire médiéval de la Rousse de Kiev, ce qui, au passage, légitime quelques revendications sur les terres ukrainiennes. Quant à l'histoire que racontent tous les présidents américains, des migrants en quête de liberté, la géniale Constitution de 1787, une guerre civile pour abolir l'esclavage, une force pour défendre le bien dans le monde, etc., elle nous est familière. Après la parenthèse trumpiste, Joe Biden reprend à son compte le récit habituel, ainsi que l'exprime précisément sa notion de « point d'inflexion de l'histoire mondiale » lancé à Munich. Le point où une ligne jusqu'alors ascendante, après une brève chute, repart vers le haut. Ces exemples devraient inciter l'Europe à regarder à son tour plus loin en arrière et là réside la quintessence de mon propos, à changer de protagoniste. En un mot, au contraire de la civilisation européenne, la jeune Union européenne n'est pas à même de porter notre intrigue. Au début de ce cycle, j'ai soutenu que la doctrine bruxelloise avait oublié, voire déclaré tabou, les trois concepts géopolitiques de base: puissance, territoire, récit. Précisons les choses quant au récit. Il ne s'agit pas de dire qu'on n'en a pas développé, mais celui retenu ne s'est intéressé qu'à l'intégration elle-même, à ses grands hommes, Monet, Schumann, Spaak, à ses reculs et à ses percées, à sa progression de traité en traité, d'élargissement en élargissement. Le vieux passé a pris une figure d'épouvantail, comptant tout de même quelques figures de précurseurs, de Charlemagne à Erasme ou à Victor Hugo. De la sorte, dans les brochures et le matériel pédagogique de Bruxelles, on lit que l'Europe est née le 9 mai 1950. Le regard porté sur l'avenir, purifié de ses péchés, l'Europe est devenue projet et attente. Dans le même temps, on a remis le rôle de porte-parole aux juristes, économistes, techniciens et idéologues. Quelle perte d'imagination! La géopolitique européenne nécessite un récit ayant la civilisation européenne pour héros et dans lequel on pourrait considérer l'Union comme l'expression politique actuelle de celle-ci, en tant qu'héritière du concert européen des débuts de la modernité. À l'aune de cette conclusion provisoire, cher public, revisitons une dernière fois nos catégories d'espace et de temps, cette fois donc dans le contexte du récit. Deux remarques tout d'abord à propos de l'image spatiale que l'Europe a d'elle-même. La première concerne la frontière. Dans son Éloge des frontières de 2010, Régis Debray souligne le lien intime entre bornes et récits, cartes et légendes. Et je cite, « Un peuple, c'est une population plus des contours et des compteurs. » Il en arrive à cette idée, je cite, « La misère mythologique de l'éphémère Union européenne, qui la prive de toute affectatio societatis, tient en dernier ressort à ceci qu'elle n'ose savoir et encore moins déclarer où elle commence et où elle finit. » Une critique fondée, avons-nous dit au préalable, à cette nuance près que l'Union change. Réveillée en sursaut par la Russie et la Turquie lors de grands conflits frontaliers de 2014 et depuis lors, nous voici aujourd'hui confrontés en tant qu'Union à la question suivante. Laissons-nous à nos voisins le soin de crier halte ou osons-nous tracer nous-mêmes la frontière? Qui peut encore croire que l'avenir de la Turquie d'Erdogan se jouera au sein de l'UE? Qui doute encore, depuis ces dernières années, que la Russie hésitera à s'opposer à notre expansion vers l'Est, si nécessaire par la force armée? L'heure de l'ambiguïté diplomatique est révolue. Cependant, deux conceptions différentes de la frontière s'entravent. Les anglophones parlent de border, la ligne sur la carte, par opposition au frontier, vocable qui désigne une lisière floue et mouvante. L'Union préfère penser en termes de frontier. Les frontières ne délimitent pas un espace politique, elles sont plutôt les avant-postes de la civilisation, au-delà desquels s'étend le monde sauvage, comme dans l'Ouest américain. Elles supposent aussi innovation et dynamisme. Traduite en jargon bruxellois, cela conduit au concept d'européanisation, pardon, c'est-à-dire la transposition par nos voisins des valeurs de l'UE dans leurs normes politiques et juridiques, comme une force qui rayonne vers l'extérieur. Par son mouvement, elle n'est pas sans ressembler à la christianisation du Moyen Âge. De même que l'ère de la civilisation chrétienne s'est étendue progressivement vers le nord et l'est du continent à partir de l'Empire romain, l'acquis communautaire du traité de Rome accomplit aujourd'hui son œuvre. On comprend dès lors aussi qu'on a pu traiter les Britanniques favorables au divorce de déserteurs, voire d'hérétiques. Cependant, nous nous heurtons ici à une tension narrative. L'Europe, en tant que projet civilisationnel, s'apparente à une frontière mouvante et floue, une certaine volonté de s'étendre, tandis que l'Europe, en tant qu'entité politique, a besoin d'une border statique. Auquel de ces deux marqueurs convient-il de donner en dernière instance la priorité ? À celui qui distingue civilisation et monde sauvage ou à celui qui circonscrit les puissances ? Je dirais, à propos de ce moment de notre histoire, à la border. Sans la délimitation de notre frontière extérieure, notre espace civilisationnel se perd dans le miroir des autres. Il est menacé. En outre, plutôt que de regarder ceux de l'autre côté comme des Indiens ou des barbares devant être civilisés, nous ferions mieux de les considérer comme des égaux, ce à quoi invite la ligne politique de la border, jetant ainsi les bases d'un dialogue diplomatique, d'un vrai pluralisme. Ceci m'amène à ma deuxième remarque sur l'espace. La nécessité de se protéger est d'autant plus grande que les États-Unis se tournent vers la Chine et le Pacifique. En gros, si l'Amérique devient une puissance pacifique, le destin de l'Europe sera de devenir une puissance eurasienne. Au lieu de la partie orientale de l'ordre atlantique, l'Europe couvrira à l'avenir les bords occidentaux de l'Eurasie, la plus grande zone terrestre de notre planète, à l'extrémité de laquelle se trouve, on le sait, le géant économique chinois. Il va donc falloir nous réorienter, au sens le plus littéral du terme, nous tourner de nouveau vers l'Est. Un énorme basculement, certes, sur la carte abstraite du Coros, rien ou presque n'a changé. Mais voyez à quel point notre topos est différent, combien nouvelle notre place sur Terre. Or, c'est à peine si nous avons entamé la réflexion à ce sujet, une grande tâche pour les années à venir. La même chose vaut pour le récit relatif à notre place dans le temps. Lui aussi, convient de l'ajuster. L'image temporelle que l'UE a d'elle-même présente deux faiblesses. La première est ce pari illusoire sur l'avenir dont il a déjà été question. L'Union n'est pas la porte d'entrée de la fin de l'histoire. Le reste du monde ne suit pas le mouvement vers un monde multilatéral. Deuxième faiblesse, cette image temporelle de soi relève de l'hypocrisie quant à la rupture avec le passé. La présentation de l'unification européenne comme une échappatoire au bourbier de la politique de puissance ne tient pas compte de la mesure dans laquelle les communautés de l'après-guerre ont fait elles-mêmes partie d'un projet géopolitique, le renforcement de l'Occident dans la lutte mondiale contre l'Union soviétique. À rebours des idées pieuses, ce sont à chaque fois des historiens, tels récemment Mark Gilberts et Kiran Patel, qui nous ont rappelé ce fait. Pareille considération nous aide à changer le protagoniste du récit européen, à donner à l'aventure européenne de l'après-guerre sa place dans un temps historique plus long. Toutefois, ce renversement de protagoniste de l'UE à l'Europe nécessite un troisième revirement temporel. Pour résumer cela en peu de mots, le projet européen doit se libérer d'une conception paulinienne du temps. Je m'explique. Les fondateurs de l'Europe ont rendu tolérable la longue attente de nouvel ordre politique en recourant à une astuce qui rappelle l'intervention de l'apôtre Paul. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a parlé d'un événement advenu, la résurrection de Jésus, tout en affirmant que l'histoire du salut n'était pas pour autant terminée. Entre la résurrection et la fin du temps, il y avait selon lui un présent spécifique qui échappait au temps historique ordinaire et qui consistait dans l'attente de la rédemption définitive. Une période transitoire, donc, de déjà et de pas encore, qui allait offrir le cadre de l'expérience chrétienne du temps. Et c'est sur un mode parfaitement semblable que l'orthodoxie bruxelloise évoquait la fondation européenne couchée dans un traité, tout en proclamant que le véritable télos de l'Europe n'était pas encore atteint. Cette Europe en construction était elle aussi déjà et pas encore. Les fondateurs ont tiré une ligne temporelle paulinienne entre la première pierre et la cathédrale d'une fédération loin d'être achevée. Ils ont donné ainsi un sens au futur, porteur d'une promesse. Il devenait possible de scruter l'horizon pour y voir des signes de son avènement. Afin de devenir un acteur géopolitique qui prend les secousses du monde au sérieux, l'Europe doit se libérer de cette eschatologie. Pour certains idéologues bruxellois, et cela m'a toujours frappé depuis que je les côtoie, la tentation semble grande de percevoir dans chaque nouvelle crise, aussi douloureuse et dangereuse soit-elle, la promesse d'une Europe unie. Contre cette tentation d'une fuite hors du monde, le moment machiavélien, déjà évoqué la semaine dernière, offre le meilleur remède. Ce moment où un ordre politique, prenant conscience de sa propre mortalité, nous ramène sur terre et dans un présent mouvementé. Ce moment qui nous oblige, en outre, à lire le temps d'ici-bas, non pas en termes d'espoir et de salut, mais de kairos, d'époque et d'opportunité. Formulons les choses autrement. Les analyses du retour de l'histoire ou de la fin de sa fin tiennent parfois de lamentations consternées. Or, la géopolitique commence à partir du moment où un corps politique ressent, décide. Il s'agit d'un retour dans l'histoire. Nous y entrons, poursuivons nos objectifs, puissance, délimitons notre espace, territoire et faisons résonner ce qui fait de nous une communauté, récit. Négliger cela, s'abstenir d'agir, c'est risquer un moment kairos d'humiliation. À l'instar de la Chine en 1860, lors du pillage du palais d'été, à l'instar de nos pays qui en ont tous connu au moins un par le passé, autant d'exemples que nous voudrions éviter de revivre. La nouveauté que l'opinion publique perçoit de mieux en mieux, c'est que les grands événements commencent à nous toucher de façon très concrète en tant qu'Européens, y compris en tant qu'ensemble européen. Alors que, grâce à l'intégration européenne, nous partageons depuis trois générations le temps de l'horloge technique, celle du Chronos, voici que l'horloge historique, celle de notre Kairos, retentit de plus en plus fort. Traduite en termes plus prosaïques, l'autonomie stratégique est une première réponse nécessaire, qualifiée de défi de notre génération par l'actuel président du Conseil européen, Charles Michel. Certes, à Paris et à Berlin, les dirigeants savent qu'on ne peut, du jour au lendemain, réduire à néant la dépendance militaire et nucléaire à l'égard des États-Unis. Considérer par suite que les moyens et possibilités limitées de l'Europe rendraient futile tout discours sur un tel objectif est une erreur de jugement, un irresponsable déni des évolutions historiques. La présidence de Biden, après le choc existentiel de Trump, qui a failli nous précipiter dans le fleuve du temps, nous offre 4 ans de répit pour nous organiser en tant qu'Européens. Quelques conclusions à la fin de cette conférence sur l'entrée européenne dans l'histoire. Nous venons de voir pourquoi la géopolitique, trop souvent réduite aux concepts fondamentaux puissance et territoire, est aveugle et privée de gouvernail sans le troisième terme, le récit. Grâce au récit, cette ancestrale et magistrale forme qui permet de lier passé, présent et avenir, nous vivons dans un temps qui fait sens. Or, le saut dans le flux du temps, la rupture avec la pensée de l'éternité universelle, est un préalable à toute prospective stratégique. Après tout, prévoir, agir en vue de ce qui vient ou peut survenir, suppose de la continuité, une identité dans le temps. Suppose de savoir qui l'on est, suppose tout bonnement d'être une entité à part entière et donc d'être à même de fixer de façon autonome nos propres intérêts et valeurs en tant qu'union. Je viens de mettre en évidence certaines conditions de ce récit stratégique, la place de l'Europe dans l'espace et surtout dans le temps. Ceci de façon programmatique, sans ignorer que de nombreux aspects nécessitent une élaboration plus concrète. Mentionnons-en trois. Tout d'abord, il convient de définir la notion générale de récit en termes plus opérationnels. En géopolitique, le discours le plus sophistiqué prend la forme d'une grande stratégie, grand strategy, une stratégie qui articule les fins et les moyens d'un État. Il va sans dire, c'est la leçon de Michel Foucault, qu'il s'agit là inéluctablement d'une affaire de pouvoir. Paraphrasant une formule célèbre de Marx, on pourrait dire que la grande stratégie permet de mieux interpréter le monde alors qu'elle est aussi un outil pour le transformer. Cette tâche n'incombe pas uniquement aux universitaires ou aux groupes de réflexion. Elle doit également et surtout être accomplie et incarnée au plus haut niveau politique. Deuxièmement, il faudrait en dire plus sur les narrateurs et les protagonistes politiques de l'Europe géopolitique, sur les rôles que jouent Bruxelles, Berlin, Paris et les autres capitales, sur l'enchâssement des qualités narratives dans les institutions. Troisièmement, en lien avec ce qui précède, se posent des questions plus vastes relatives à l'infrastructure matérielle d'un récit, des débats stratégiques, elles touchent aux médias et à la sphère publique européenne naissante, voire à large échelle et sur la durée, à l'enseignement et à la recherche. Autant d'aspects qui pourront être développés en une autre occasion par certains confrères ou par moi-même, je me contente d'en faire état à titre de programme et d'invitation. Chers professeurs et collègues, mesdames et messieurs, ma quatrième conférence clôt ce cycle sur l'Europe que le Collège de France m'a donné l'honneur d'inaugurer. Rassurez-vous, je ne vais pas tenter de résumer mon propos. J'espère avoir montré que le sujet mérite bien plus qu'une énième exhortation à mieux faire, qu'on assiste à un véritable réveil en acte et en parole. Si ce réveil se produit souvent à contre-cœur, il ne s'agit pas moins de l'embrasser tout en reconnaissant l'ampleur et la radicalité de la tâche. Je préfère terminer en m'adressant à vous, Français. Étant venu vous dire tout ceci depuis l'étranger, moi qui pense dans une autre langue que la vôtre, je sais par expérience que ce genre d'exposé tombe ici en terre fertile. Le langage de la politique, de la puissance, vous êtes très naturel, vous le respirez. Malgré la machine de dépolitisation bruxelloise, Paris, l'Élysée, les quais, etc., n'a pas cessé de réfléchir et d'agir en conséquence. Mais n'oubliez pas que ce n'est pas le cas de tout le monde en Europe. Cette pensée est étrangère à certaines opinions publiques et systèmes de gouvernement. Certes, le président Macron s'est adressé à toute l'Europe depuis la Sorbonne, mais son message n'a pas toujours été bien compris, voire pas compris du tout. Cela tient à la langue, à ses idiotismes, et donc à la conception du politique, à la manière d'être au monde. Autrement dit, le propos demande à être traduit, tant au sens propre qu'au sens figuré. Heureusement, l'obstacle est surmontable dans notre Europe, continent d'écrivains et de traducteurs. Sans les mots et leur traduction, impossible de construire la sphère publique au sein de laquelle raconter une histoire, la transmettre, l'écouter, en débattre. C'est seulement grâce à l'espace public, nous dit Hannah Arendt, que l'on peut intégrer ces petits récits que nous nous racontons entre nous dans un récit plus vaste, celui de l'histoire. À défaut, il se perdrait dans le temps. Les tragédiens de la Grèce antique savaient déjà que dès que l'on quitte la sphère des certitudes pour le théâtre ouvert de la vie, on se trouve face à des choix cruciaux et à des dilemmes. Au cours de ce cycle, j'ai évoqué même moments de choix tragiques, certains que nous avons vécus, d'autres qui se trouvent sans doute devant nous. Nos objectifs stratégiques font, ou devraient faire, constamment l'objet de débats, non seulement parce que le monde change, mais parce que la pluralité de nos valeurs fait que celles-ci sont parfois en contradiction les unes avec les autres, des valeurs qui en même temps déterminent notre force et notre singularité. C'est ainsi. Tandis que l'histoire américaine est au fond un jeu de moralité de right contre might, la russe, une chronique cynique, might contre might, la chinoise, une harmonie bien agencée. L'européenne nous inculque le sens tragique de ce qu'est souvent la politique. Right contre right. La paix contre l'équité. La sécurité contre la démocratie. L'égalité contre la liberté. Nous, Européens, nous ne jouons pas pour gagner, mais pour perdre le moins possible. Ce qui est déjà beaucoup. 25 siècles séparent la construction du Parthénon à Athènes et l'adoption de la loi des 12 tables dans la République romaine de notre époque ouverte. Il y a là pour nous, Français, Hollandais, Allemands, Italiens et autres Européens, la matière dans laquelle forger un imaginaire et porter un récit qui nous permettra d'avancer avec confiance sur notre bout d'Eurasie, entre nos amis, nos voisins, nos rivaux, dans le grand théâtre de l'histoire. Je vous remercie de votre attention.